Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Tintouin, la radio qui nous accueille et qui accueille depuis maintenant quelques semaines, quelques mois, la classe de CM1, CM2 de l'école Notre-Dame-Saint-Joseph. Aujourd'hui, c'est le troisième volet de notre voyage autour du monde. Nous avions voyagé avec Monsieur Swede, ensuite nous avons voyagé avec le National Palace et les États-Unis. Et aujourd'hui, nous voyageons à travers le sport, c'est comme toujours le judo et également le Japon, avec notre invité Michel Dubourg. Bonjour.
Bonjour.
Michel Dubourg, que beaucoup de Vierzonais connaissent puisqu'il est entraîneur dans un club, le club de judo, le judo club de Vierzon, et puis qui a de nombreuses passions, donc la passion bien sûr du judo, il va nous en parler dans quelques minutes, et puis la passion pour ce pays du soleil levant qui a vu naître le judo. Et il va nous raconter un peu cette passion pour ce pays et pour ce sport. Avec moi, pour m'accompagner, je remercie bien sûr les techniciens de Radio Tintouin et également les 12 CM1 qui sont là, qui ont préparé. Alors Michel, ils ont préparé les questions. Hein. C'est un travail qui se fait en classe depuis plusieurs semaines. Préparation des questions, préparation du conducteur de l'émission, chercher les musiques. Il y a tout un travail en amont qui se fait. Et ils vont faire le petit travail du journaliste qui commence à bien maîtriser, hein, parce que c'est déjà leur deuxième émission. Les CM2 ont fait l'autre émission, la précédente. Et puis, voilà, ils sont quand même maintenant des habitués de la radio. Et je pense que ça va bien se passer. Alors, voilà, donc le premier volet, Michel, ce sera sur le judo. Beaucoup de questions concernant ce sport, que certains pratiquent d'ailleurs avec vous. Et la deuxième partie de l'émission sur le Japon, et puis sur éventuellement toutes les spécialités, tout ce qu'on peut connaître et découvrir sur le Japon. Voilà, c'est Ambre qui est avec nous pour poser la première question. On ne perd pas de temps, on enchaîne. Et voilà, la toute première question sur le judo avec Ambre.
Depuis combien de temps pratiquez-vous le judo ?
Eh bien, écoutez, merci de m'avoir invité tout d'abord. Je suis très content d'être parmi vous et je vais essayer de répondre, bien sûr, le mieux que je peux à vos attentes et surtout à vous faire découvrir mon activité que je pratique depuis le 28 février 1964. Donc, bien sûr, pour vous, ça paraît... très grand, vous
êtes très loin.
La plupart d'entre vous n'étaient pas nés d'ailleurs.
Oh, tous.
Et donc j'ai entamé ma 53e année de pratique. Ouais.
Question suivante, Ambre.
Pour vous dire, c'est que j'ai pratiqué ma première séance de judo, et celle-là, c'est d'une grande anecdote. Ma première séance de judo, je l'ai pratiquée à Selles-sur-Cher. Dans un petit village dans le Loir-et-Cher, et j'étais comme barman, hein, j'avais profession, j'étais barman, et je ne savais pas quoi faire de mes journées de congé. Donc un jour j'ai demandé au facteur, qui a été un de mes professeurs, qu'est-ce qu'on pouvait faire comme activité sportive. Et il m'a répondu, bah écoutez, il y a du judo. Alors je lui ai dit, mais c'est quoi ce sport? Je connais pas du tout. Et donc il m'a invité à faire ma première leçon. Et donc j'ai fait ma première leçon dans un grenier.
Il n'y avait pas encore le dojo alors.
Oh, il n'y avait pas de dojo à l'heure actuelle. Il y avait à l'époque.
C'était peu connu et peu répandu.
Tout à fait. Et donc, j'ai pratiqué dans ce grenier. C'était un caisson en bois avec de la sciure, des copeaux de bois, une bâche de camion, des cartons, hein, une bâche de camion recouverte. Oui. Et j'ai eu la chance d'avoir un cours individuel fait par un monsieur qui s'appelait, qui est décédé malheureusement à l'heure actuelle, qui s'appelait monsieur Marcel Gaugry, et qui venait rapatrier de la guerre d'Algérie, quoi. Enfin, il revenait de la guerre d'Algérie, et il était ceinture verte, et c'est lui qui m'a dispensé de ma première leçon de judo. Et donc, il m'a mis le kimono, et le salut, enfin, je découvrais un monde que j'ignorais complètement.
Et là, ça a été une révélation.
Et pour moi, ça a été une révélation, effectivement. Et d'ailleurs, le jour où j'ai été ceinture noire, j'ai été voir cette personne pour le remercier de tout ce qu'il avait pu m'apporter en très peu de temps, en définitive.
Et c'est lui qui vous a formé les premiers temps ou après vous avez...
Alors, c'est lui qui m'a formé pendant un mois ou deux, tous les jeudis, pendant 2 heures. Nous étions tous les deux. Hein. Et après, ils ont changé le cours. Et ils ont mis ça, ils se sont adaptés à mon jour de congé pour pouvoir évoluer plus rapidement et me perfectionner de plus en plus, quoi. Et
D'accord.
après, j'ai quitté mon travail à Selles-sur-Cher et je suis atterri à Vierzon en 1965, où là, j'ai vraiment connu toute l'activité judo avec mon maître, Monsieur Jimmy
Jimmy
Agar,
Agar, bien sûr.
qui est malheureusement aussi disparu, mais qui m'a confié les clés de la maison, on va dire ça comme ça, et j'espère que j'en ai fait bon usage et qu'il est fier de moi. Voilà.
Alors, du coup.
Alors, ce qui m'a donné envie, bon,
Mais c'est bien de préparer, au
alors
contraire.
moi j'étais quelqu'un, j'étais un jeune, j'étais un petit peu bagarreur, j'étais un petit peu foufolant, enfin, pas tellement. Bon, j'avais pas envie qu'on m'ennuie, quoi.
Oui,
Donc.
vous aviez du répondant.
Oui, tout
Oui,
à fait.
vous aimiez le contact.
Oui,
Pas toujours chaleureux.
j'aimais le contact parce que mon premier sport que j'ai pratiqué à l'âge de 10 ans, c'était le rugby.
Ah oui, c'est lié quand même.
Alors donc, le rugby et le judo, je trouve ces deux sports complètement en
Ouais.
commun. Alors donc, mais comme je ne pouvais pas pratiquer le rugby, parce que le rugby c'était le dimanche, et comme je travaillais le dimanche, donc je me suis retrouvé pendant quelques années sans activité physique. Et donc, ce qui m'a.
Ça vous manquait,
Oui, tout
hein?
à fait, ça me manquait.
Vous étiez quand
Puis
même tourné vers le sport, quand même.
voilà, j'avais besoin aussi d'évoluer, d'apprendre quelque chose. Et donc, j'ai découvert à travers le judo, effectivement, une certaine pratique physique et sportive, mais surtout une philosophie.
Ah oui.
Et ça, j'ai tout de suite compris le sens du code moral de la pratique, ne serait-ce que le respect de son adversaire. On m'a fait découvrir ce que c'était la relation humaine, quelque part. Et franchement, il y avait des règles. Et surtout, mon professeur, Monsieur Agar, m'a vraiment appris ce que c'était que le Shingitai. Alors, le Shingitai, c'est le corps, l'esprit et la technique. Et donc, ces valeurs de judo, fait appel, bien sûr, à des ressources physiques et mentales. Donc, tout est lié et il faut à tout prix conjuguer ces trois, le Shingitai, pour pouvoir réussir à travers cette activité physique et sportive. Voilà.
Oui, c'est là où on se rend compte que, effectivement, derrière le judo, il y a toute une philosophie, un état d'esprit auquel vous avez adhéré. Et finalement, c'était une. Vous aviez quel âge là? 64, sans doute.
Alors, en 64, j'avais 17 ans.
Donc, ça veut dire que c'était un moment de votre vie où vous aviez besoin d'avoir cette rencontre-là, avec
Oui,
des règles,
oui,
avec un état d'esprit.
oui, oui. Surtout que, bon, je ne voudrais pas m'étendre sur mon enfance, mais bon, j'ai eu une enfance assez pénible, étant avec ma mère, ma mère étant seule avec trois enfants. Voilà, il a fallu effectivement me débrouiller par moi-même, et le judo a très bon, très, très, très
Contribuer à vous
contribué à
aider.
cette activité. Enfin. À cette vie, quoi,
Oui, c'est
voilà.
ça, c'est ça. Ça a été vraiment une rencontre déterminante dans votre vie.
Tout à fait.
Ouais.
Et pour la petite histoire, j'ai commencé en 1964 et j'ai été ceinture noire de judo en 1966.
Deux
Donc,
ans.
c'est pour vous donner
Deux ans pour
en
avoir la
2 ans
ceinture.
pour avoir la ceinture noire que maintenant il faut à peu près 10 années, quoi. Donc, vous voyez, j'étais un fervent,
Et oui,
j'adorais ça.
c'est ça, c'est ça. On va en parler après, des ceintures noires et puis de la compétition.
Alors, pour moi, oui, je le définis comme suit. Le judo, ju, ça veut dire voie. Do, ça veut dire souplesse. La voie de la souplesse. Et puis, il y a une légende qui a été qui est créé au Japon concernant effectivement
La création du judo, d'où il
voilà.
vient, l'origine, la source.
Voilà. Alors, d'abord il a été créé par Jigoro Kano, maître Jigoro Kano, en 1882. Il est généralement catégorisé comme un art martial moderne qui, par la suite, a évolué en sport de combat et en sport olympique. Sa caractéristique la plus prédominante est son élément compétitif dont l'objectif est soit de projeter, soit d'amener son adversaire au sol ou l'immobiliser. Technique de maîtrise ou à l'obliger d'abandonner à l'aide de clés ou de strangulation. Les frappes et coups à main nue ainsi que les armes font partie aussi de la pratique du judo, mais seulement sous forme de préarrangement, c'est-à-dire les katas, une démonstration technique, et ne sont pas autorisés dans le judo en compétition, hein. Ni en pratique libre les randori. Enfin, disons que on abandonne tout ce qui est armes, tout ce qui est traditionnellement appliqué. Bon, ça vient aussi, le judo vient aussi des samouraïs.
Ah oui.
Donc, Jigoro Kano avait fait une étude. Il a commencé par apprendre le jujitsu. Et il n'y avait que le jujitsu. Et lui, il a vu une légende. Il a regardé un peu autour de soi. La légende dit ceci, hein. Il a regardé les cerisiers dans l'hiver. Et les cerisiers avaient de la neige sur les branches. Et les cerisiers cassaient sur le poids de la neige. Et il a tourné la tête et il a vu des roseaux qui avaient la même chose, de la neige sur les roseaux. Et lui, le roseau, lui, quand le poids de la neige était suffisamment important, se pliait et remontait.
Plus souple.
Donc, c'est une légende qui est répandue dans le monde du judo, que tout le monde, les judokas, connaissent.
C'est ce qui lui a inspiré donc la création du judo à partir du jujitsu.
Voilà. D'accord. Et lui, il en a fait une étude.
Il a créé un art martial, quoi.
Et il en a fait une pédagogie physique et morale. Et donc, pendant très très longtemps, il a été ministre d'éducation physique au Japon, Jigoro Kano, quand
même.
Ah
oui, d'accord.
Et,
personnalité.
Ça a été institué au Japon, dans toutes les écoles, dans tout la police, et ainsi de suite, quoi. Cet art martial a été une révolution au Japon dans ces années-là. Et après, bien sûr, il l'a fait découvrir.
Comme un sport.
Il l'a étendu dans le monde, ouais. Qui après, est devenu un sport, est devenu...
sport olympique, etc.
Sport olympique, et ainsi de suite,
quoi. D'accord, très bien. Alors, belle explication, belle légende. Merci, Michel. Et il y a une autre question, Angelo ?
Oui.
Ah, il y a toujours une question, Angelo, en plus. Non ?
Bah,
ah non, bah vas-y, alors.
Non, c'est...
Ah oui, pardon, excuse-moi.
Qui a inventé cet art martial ? Ah, oui.
Alors, je l'ai dit, effectivement.
Jigoro Kano.
Jigoro Kano. Mais on ne peut pas, dissocier l'histoire. C'est à savoir qu'on est obligé de parler de Jigoro Kano étant donné le précurseur du judo dans le monde entier, quoi.
Alors, ce qui est très étonnant, vous m'avez dit Jigoro Kano a vécu 1885, c'est ça, vous le disiez, quelque chose dans ces...
Alors,
et ce qui est très étonnant quand on va dans un dojo, c'est que on salue, quand on rentre sur le tatami, on salue encore le maître qui a existé donc il y a à peu près 150 ans.
Voilà, mais ça, le rituel du salut, C'est un rituel qui est courant dans tous les dojos, dans tous les monastères.
Quel que soit l'art martial.
Voilà, c'est dans leur culture.
C'est dans la culture du salut.
Dans la culture du Japon.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même la photo de Jigoro Kano qui est dans les dojos, qui n'est pas le cas, par exemple, de tous les fondateurs d'un sport.
Ça, c'est parce qu'on reconnaît, c'est une marque de respect entre les élèves et le maître.
C'est l'idée de la transmission du maître à l'élève, et donc on respecte cette transmission.
Tout à fait.
Ouais. Alors, vas-y Aurélien.
Qu'est-ce que vous aimez dans ce sport ?
Alors, qu'est-ce que j'aime dans ce sport ? Bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, La discipline.
Quelque chose dont vous aviez besoin, vous avez raconté.
Voilà, c'est ce que je vous expliquais un petit peu en première partie. Bon, quand j'ai eu 17 ans, j'étais un peu feu fouleur. Ouais. La moindre réflexion, j'étais un peu bagarreur. Ouais. J'étais pas, comment dirais-je, socialisant. J'étais un peu fou follet, quoi.
Ouais, hein. Ouais, ouais.
Et vous avez dû vous canaliser. Effectivement, moi, le judo m'a un peu dirigé. Concentré pour être quelqu'un de... Bon, j'aurais pu finir voyou, hein, on va dire les mots.
Oui,
hein.
Oui, ben, voilà, bien sûr, hein, tout on à est fait. Là pour ça.
Oui, oui. Et puis...
Donc ça vous a permis de, j'allais dire, de grandir, quoi, de vous tourner...
Ça m'a permis d'évoluer socialement parlant.
Socialement voilà. Parlant. Donc le sport vous a sauvé, en quelque sorte. Le judo vous a sauvé d'une vie autre que celle que vous avez eue.
Oui, tout à fait.
Alors, on continue.
Avez-vous fait beaucoup de compétitions?
Ah oui, ah bien, parce que c'est un sport, mais avec des compétitions. En sport, un sport dans lequel en France, on est particulièrement bon, hein, puisqu'on est doit deuxième ou troisième au niveau mondial, je crois. Hein.
Tout à fait.
Donc,
tout à fait.
On peut être fier du judo français.
D'une part, on peut être très fier du judo français, et on peut dire que le judo français porte haut les couleurs nationales et mondiales.
Oui.
Et effectivement, il y a une très grande rivalité entre les Français et les Japonais au niveau de ce sport. Mais en ce qui me concerne, oui, effectivement, je ne peux pas concevoir cette activité sans pratiquer la compétition. Mais la compétition, elle peut se pratiquer, mais il y a aussi des gens qui pratiquent sans
compétition.
Sans compétition. C'est pour ça que c'est un sport très universel et qui permet effectivement de pouvoir,
pratiquer librement, quoi.
Voilà.
Sans contrainte de se dire, je suis obligé d'aller faire une compétition.
Voilà. Mais pour avoir sa ceinture noire, il faut à tout prix.
Ah oui.
Faire de la compétition.
Il faut justifier de points pour obtenir cette ceinture.
Être justifié pour
jusqu'à quel niveau vous êtes allé en compétition?
Ah bien, j'ai fait plusieurs... tous les ans, je faisais le championnat départemental. Je me qualifiais pour les régionales. Je me qualifiais certaines années pour les interrégionales.
Ouais.
Et j'ai été une fois qualifié pour le national.
Très bien.
Voilà.
Alors ça...
En 1965...
An après
un an
la
après,
découverte.
Voilà, oui, j'étais...
Et jusqu'à longtemps?
Non, après j'ai été vite dépassé par des événements.
Et c'est là que vous êtes tourné vers le
professorat. Et c'est là que je me suis un peu retourné vers l'enseignement.
C'est ça. D'accord.
Et l'arbitrage.
Ah oui, bien sûr. C'est un élément aussi du judo, bien sûr. Aurélien?
Comment viviez-vous vos défaites?
Oh, mes défaites, vous savez, je pense que les défaites, d'abord, j'analysais mes défauts, mes qualités, mes défauts. Effectivement, bon, j'étais quand même reconnu au niveau départemental comme quelqu'un, on va dire, d'assez fort, on va dire ça comme ça, technicien. Et je savais qu'on m'avait analysé, donc... je remettais en chantier un autre travail pour me permettre de
pas
contrer,
être,
voilà,
ça, de pas être attendu sur
voilà,
vos techniques.
Voilà, tout
ouais.
À fait.
Mais je me rappelle une fois vous avoir entendu dire qu'on apprend plus de ses défaites que de ses victoires. Vous disiez
ah,
ça des fois à vos
fait,
élèves.
Oui, tout à hein? fait. Je dis toujours ça à mes élèves. Dans les défaites, il y a toujours des points positifs pour préparer la victoire d'après. Et ça, c'est vrai que c'est... C'est un moyen aussi de s'évoluer dans la pratique et d'apprendre. Il faut, dans le judo, on apprend tous les jours, on apprend. C'est pour ça que c'est une activité physique et sportive très très longue. Et en même temps, ça forge le caractère des gens et la volonté de vouloir gravir les échelons ouais. Petit à petit.
Et on en revient à ce que disait tout à l'heure, c'est les valeurs de la vie. Finalement,
hein,
ne pas baisser
fait.
Les bras,
tout
avancer,
tout
apprendre,
fait.
Même s'il y a des fois des chutes et des défaites, il faut analyser pour mieux rebondir et sortir victorieux de tout ça.
Tout à hein? fait. Et pour moi, le judo, ça commence que lorsqu'on a terminé la leçon.
Eh oui.
Voilà, c'est ça que je dis aussi à mes élèves. Vous commencez le judo une fois que vous avez quitté votre première leçon et que vous avez passé la porte du dojo. Voilà. Voilà. C'est là qu'il commence le judo,
le véritable judo. Les valeurs du judo qui sortent du dojo et qu'il faut appliquer à l'extérieur.
À l'extérieur, surtout à l'extérieur. Ouais. Surtout dans notre, dans notre société actuelle.
Ouais, je suis bien d'accord.
Voilà.
Alors Aurélien.
Aviez-vous un autre métier et d'autres passions?
Alors, d'autres passions, il en a un paquet.
Oh là, alors là, j'ai effectivement...
Alors, quel était votre métier déjà?
Alors, mon métier, j'ai...
Tu n'as pas toujours été barman, quand même.
Alors, j'ai pas toujours été barman, mais j'ai commencé mon apprentissage de serveur en restauration à Massé, au Relais Saint-Hubert, à Massé, qui n'existe plus, d'ailleurs, parce que mes parents tenaient un restaurant. Et voilà, bon, j'étais un peu versé dans l'activité. Donc, je ne pouvais faire que ce métier-là. Je maîtrisais énormément ce métier-là. J'ai connu mon épouse, et qui, elle, ne partageait pas du tout ce métier. Et donc, elle m'a dit... ce serait bien que tu changes de métier. Alors donc, je me suis retourné, j'ai été dans l'industrie.
D'accord.
Et j'ai été à l'école pour apprendre le métier de soudeur sur les pipelines et les centrales nucléaires.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Donc, je me suis fait embaucher à la société Biragui Entrepose, qui était une grosse société. Et une fois que j'ai fait mon apprentissage... Ils m'ont dit, écoutez, vous savez travailler, mais pas suffisamment à notre goût. Alors, est-ce que vous voulez accepter si vous voulez qu'on vous apprenne à notre école?
Oui,
ah, j'ai dit oui,
d'autres techniques.
Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai donc été à cette école-là. Et au bout de 2 ans d'école, dans le milieu professionnel, et c'est là qu'ils m'ont fait passer des licences en soudure. Et donc là, après, j'avais la qualité, la capacité de faire ce travail. Et donc, j'ai travaillé sur la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, qui est pas loin d'ici, et puis la centrale de Chinon.
D'accord.
Voilà. Donc, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Et le choc pétrolier de 1974 a fait qu'on a... On s'est fait licencier, quoi, et puis j'avais plus de travail. Mais comme je continuais le judo,
bien sûr,
j'avais un ami qui était conseiller technique régional, avec lequel j'avais de très très grandes relations, et il m'a conseillé, il m'a dit, est-ce que ça te ferait plaisir d'être professeur de judo? Ah ben j'ai dit, écoute, ça serait super bien, je rêve à ça. Mais j'avais déjà des diplômes pour pouvoir enseigner. J'avais passé animateur, moniteur, enfin bon. Mais mon rêve, c'était être professeur de judo. Alors donc, je lui ai dit oui. Donc j'ai été à l'école à Orléans en 1975. En 1975, j'ai fait une année de judo en 1975. Et en 1976, juin 1976, j'étais promu professeur de judo, diplômé d'État, avec une option supplémentaire pour pratiquer le judo aux handicapés.
D'accord.
Ça, c'était un. Et l'option que j'ai eue pour les handicapés m'a permis. D'être embauché par les PEP du Cher comme professeur d'éducation physique aux handicapés à Nancy. Voilà. Et de là, j'ai fini ma carrière dans ce milieu-là. Voilà.
Ah, d'accord. Alors, c'est donc, curieux.
Mais le judo m'a tout amené.
J'allais le dire, oui. C'était encore une fois une ouverture, le judo, quoi. Par contre, vous aviez déjà choisi d'être travailler avec des handicapés sans forcément savoir que vous alliez continuer dans ce domaine. Pourquoi avoir pris cette option handicapé?
Ben parce que c'était dans la formation.
Ah d'accord.
Voilà, c'était dans la formation.
Et donc ça vous a servi.
Il y avait le judo handicap dans la formation de professeur d'éducation, enfin de professeur de judo.
D'accord.
Voilà. Il n'y avait pas uniquement être professeur de judo, parce que être que professeur de judo, c'est bien, mais bon, ça suffit pas. Et moi, je voulais pas en faire mon métier, professeur de judo, je voulais pas en faire mon métier, je voulais...
Ça devait être en plus difficile d'en vivre, à l'époque, 75.
Tout à fait, ouais, tout à fait, c'était... Hein,
voilà, on ne peut pas être professeur de judo, ce n'est pas un sport encore maintenant.
Qui est, même encore maintenant.
On va dire les choses clairement, on ne peut pas vraiment en vivre quand même.
Tout à fait.
Même si on a dit c'est
un sport. Il y a beaucoup de bénévolat dans
exactement,
dans
le... comme beaucoup de sports.
Comme beaucoup de sports.
Tout à fait. Alors, il a juste parlé des passions, parce que je sais que vous en avez de nombreuses.
Ah oui, j'ai beaucoup de passions, effectivement, mais je ne peux pas toutes vous les énumérer, mais il y a deux passions que j'ai, c'est la philatélie,
ouais.
Et ça, la philatélie, alors je collectionne les timbres, hein, pour
mais
ceux
alors,
qui ne savent
une
pas.
Une grosse collection.
Mais j'ai une très très grosse collection, oui. Très très grosse, de la France, principalement la France, puisqu'on ne peut pas tout collectionner,
bien sûr, ouais.
De 1849 à nos jours, il m'en manque très peu, voilà. Et j'ai fait deux thématiques, c'est deux thèmes,
ouais.
Une bien sûr sur les timbres sur le judo, bien sûr, et là bah, je les ai quasiment tous. On va dire ça comme ça.
Mm-hmm.
D'ailleurs, j'ai déjà présenté ma thématique. Je l'ai déjà présenté à plusieurs écoles. J'ai déjà exposé sur Vierzon et ainsi de suite, sur le judo. Et c'est un thème qui est très peu ouvert.
Ben forcément,
enfin, voilà.
Bien sûr. Ouais.
Et l'autre thématique, c'est le timbre de liberté d'après l'œuvre de Delacroix. Marianne guidant le peuple sur la méduse du radeau, quoi. Enfin, voilà.
D'accord.
Et
d'accord.
Ça, j'ai voulu faire ce thème. Pourquoi, je ne sais pas, mais bon, c'était un thème qui me marquait. Liberté, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses.
Voilà. Bien, Michel, on va faire une petite pause musicale. On écoute Préraud de la Vega, le chant des sirènes, et on revient tout de suite derrière.
Enfant des parcs, gamin des plages, le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne, hélas. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pila. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Combien de masques avons-nous laissé là-bas? Poser les armes, prendre le large. Trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne m'y noie. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire.
Allez, on revient pour après le chant des sirènes, c'est le chant du judo avec Michel, Michel Dubourg, qui nous raconte un petit peu sa passion pour le judo et va nous parler de son autre passion sur le Japon. On continue avec les questions. Michel, on t'écoute.
Quels sont les grades au judo?
Alors, les grades au judo, c'est pareil, il y a une grande histoire sur les grades. Voilà. Les grades tels qu'on les connaît, nous, en Europe.
Oui.
Donc, c'est la ceinture blanche, jaune et ainsi de suite.
On commence.
Les grades, ouais, voilà, comme ça. Et ça a été inventé par Maître Kawashi.
Un autre maître du judo.
Voilà, un autre maître du judo qui était en Angleterre. Et donc, Maître Kawashi avait compris le sens des Européens. Parce que les Européens, enfin nous, les Français en particulier, ouais, et les Anglais, on voulait avoir
des repères.
Une évaluation.
Ah oui.
Voilà. Ça. Alors lui, il a vu, comme il jouait au billard anglais, et il a pris les couleurs des billes du billard anglais. C'est peut-être un scoop, je ne sais pas si vous savez.
Non, mais
ça,
je ne savais pas.
Et alors il y a la blanche,
ouais,
la jaune, l'orange, la verte, la bleue, la marron et la
et
noire.
La noire.
Donc, pour nous, les Français, on a étalonné notre enseignement sur
c'était
l'évaluation.
Des repères couleurs. En fait.
Des repères couleurs. Au Japon, ça n'existe pas.
Ah, d'accord.
Voilà, au Japon, c'est ceinture blanche.
D'accord.
Et un jour, vous êtes ceinture noire.
Donc, vous n'êtes que ceinture, toute blanche, votre carrière toute, blanche,
voilà, ouais,
et on devient noir.
Mais c'est un peu dans leur culture. Eux, c'est comme ça. Ils n'ont pas besoin. Le meilleur repérage pour eux, c'est le travail, le travail, le travail. Et à partir de là, quand ils ont acquéri une certaine compétence technique, mm-hmm, et ainsi de suite, bon.
C'est l'esprit des Japonais, je crois. Ils n'ont pas besoin de se montrer.
Voilà. Hein, tandis que nous, un peu les Européens, il faut à tout prix
montrer ce qu'on essaie de faire,
ce qu'on est capable de faire. Mm-hmm. Alors, une fois qu'on est ceinture marron,
ou ceinture noire,
bien sûr, on est ceinture noire. Alors, voilà, dans les ceintures noires, vous êtes obligatoirement ceinture noire premier dan.
D'accord.
Ça, c'est équivaut, c'est le grade. Et après, ensuite, deuxième dan, troisième dan, quatrième dan, cinquième dan. Et une fois qu'on passe notre sixième et septième dan, huitième dan, allez, ceinture blanc et rouge.
D'accord.
Donc ça démarque un certain état d'esprit.
Huitième dan.
Voilà. Et neuvième dan et dixième dan, allez, ceinture rouge.
Et ça s'arrête à 10?
Ça s'arrête à 10. Malgré qu'il y a eu des 11e dan, il y a 3 ou 4 Japonais qui sont 11e dan. Et il y a un 12e dan qui est Maître Jigoro Kano.
Forcément, le maître.
Alors, la ceinture est blanche.
Ah, il redevient blanc.
Voilà, on redevient blanc. Ça veut dire que la boucle, c'est une boucle.
C'est ça.
Et on a terminé par la boucle.
D'accord.
On commence ceinture blanche et on termine par la ceinture blanche. Mais cette 12e dan, elle est honorifique, bien sûr, il n'y a que lui qui l'a. Et maintenant, les fédérations françaises, allemandes, mm-hmm, européennes, bon, maintenant, délivrent les grades. C'est eux qui délivrent les grades. Tandis qu'au Japon, pour obtenir un grade, il faut obligatoirement que celui qui vous le délivre soit supérieur à vous. On ne peut pas délivrer ou équivalent.
Oui, d'accord.
Mais on ne peut pas augmenter un grade, d'accord, si on n'a pas été... Donc, malheureusement, ça aura tendance, dès que ces gens-là n'auront pas nommé d'autres personnes supérieures à eux, ben, ça va mourir, quoi.
Oui,
c'est l'image.
Bien sûr.
Ça ne va pas mourir, mais c'est l'image.
Bien sûr. Autre question, Michel, justement.
Qu'est-ce d'une dan?
Qu'est-ce qu'un dan?
Qu'est-ce qu'un dan?
Ouais,
eh bien,
un
dan, c'est la valeur... C'est la valeur de technique, c'est la valeur de progression. Voilà.
D'accord. Alors, évidemment, entre chaque dan, il y a plusieurs années.
Ah oui, parce que le premier dan...
à partir de 16 ans, je crois. Hein.
Voilà.
Ceinture noire.
On ne peut être que ceinture noire qu'à partir de 16 ans.
Et donc, deuxième dan?
Deuxième dan, alors si
pourquoi
tout va
on
bien...
On dit un an ou deux ans?
Deux ans, 17 ans, 18 ans.
D'accord.
Et puis ainsi de suite, quoi.
D'accord.
Mais après, il y a...
C'est selon l'assiduité, j'allais dire aussi. Hein.
Tout à fait. Ouais. Et puis, il faut quand même, il y a quand même du boulot derrière. Hein. On n'est pas comme ça. Mais les plus forts, effectivement, on peut être. Ça ne veut pas dire pour ça que si on est ceinture noire troisième dan, une supposition,
oui.
On est très fort au niveau compétition, mais techniquement parlant, peut-être qu'on est.
Oui,
on ne connaît pas tout.
C'est ça, mais c'est
alors
ça.
Donc,
je pense
faut que ça soit lié, par exemple,
à notre grand judoka français qui est notre champion olympique Teddy Riner. Qui est quel dan finalement? Je crois qu'il n'a pas un dan très important, il me semble.
Je crois qu'il est quatrième ou cinquième.
Alors
dan,
qu'il
quand
est,
même,
alors, mais, oui, mais alors qu'il est quand même champion olympique, champion du monde.
Oui,
on pourrait supposer que ce gars-là est déjà huitième dan, ce qui n'est pas
oui,
le cas.
Mais je pense que très sincèrement, je pense que tous ces grands champions là.
Oui.
Ils ne courent pas après les dames, ils courent après les titres, ils courent après leur valeur, et ils ont le temps après, eux,
bien
ils
sûr.
Auront le temps de passer c'est leur dames, et ainsi de suite. Mais avant toute chose, la ceinture de judo, avant toute chose, est faite pour attacher le kimono. Moi, c'est ma devise. Voilà. D'ailleurs, au Japon, on peut être complètement, le kimono complètement sorti de la ceinture, ça n'a pas d'importance, mais la ceinture doit être parfaitement mise correctement. Ça a plus de valeur que le kimono qui est débraillé. C'est pas grave, ça.
D'accord.
Voilà.
Alors, Michel.
Quel est le vôtre?
Alors, pour moi, ben, le mien, moi, je suis cinquième dan.
D'accord.
Voilà.
Depuis combien de temps, cinquième dan?
Oula, ça commence à faire. J'ai terminé mon cinquième dan le 12 août 2003.
D'accord. Et vous envisagez le sixième?
Pas du tout.
Ah oui, on s'arrêtera à 5.
Oui, je pense que j'ai pris du retard il y a quelques années. Je me suis occupé de mes élèves avant de s'occuper de soi-même. Et ce qui a fait, j'ai eu des retards, mais
oui.
C'est pas grave.
Ça n'était pas forcément une priorité.
Non, pour moi, c'est pas une priorité. Ma grande priorité, c'est la valeur que les gens me reconnaissent, c'est tout. Voilà la priorité.
Alors, on va passer à une question avec Vanali sur des choses particulières. Vas-y, Vanali, prends place.
Avez-vous des prix spéciales?
Alors, non, je pense pas.
Voilà, en tout cas, dans sa question, peut-être est-ce que vous aviez eu une favorite,
une prise
particulière que vous aimiez faire?
Bien sûr, bien sûr. Non, on apprend à travailler, on apprend le judo, on apprend ce qu'on appelle le gokyo. Mm-hmm. On est obligé de savoir, pour être ceinture blanche, pour aller à ceinture jaune, on est obligé d'apprendre des prises codifiées, voilà. Et après, on s'adapte, certaines techniques sont adaptées à sa morphologie,
à sa compétence, à sa force, à sa souplesse,
ainsi de suite.
D'accord.
Donc, moi, en ce qui me concerne, j'avais un spécial, qu'on appelle un spécial.
La Dubourg.
Michel Dubourg, voilà. J'avais un Morote Soenage, c'est une projection de l'épaule. J'avais ça à droite, je faisais ça à droite. Et puis, ça a marché un temps.
Bah oui, parce qu'après, elle était connue.
Voilà. Donc, l'année d'après ou deux ans après, j'ai travaillé à gauche. Et là, à gauche, j'avais Ushimata Aregoshi. Donc, complètement, qui est un mouvement de jambes. Et Aregoshi, c'est un mouvement de hanche. Et donc, qui a surpris mes adversaires.
Mmh.
Et puis après, j'ai enchaîné. J'étais un très bon technicien en Ewaza, c'est-à-dire le sol.
Oui.
Et là, j'exerçais beaucoup ces qualités du Ewaza. J'adorais travailler au sol.
D'accord.
Voilà.
Pourquoi avez-vous choisi d'être entraîneur?
Je l'ai répondu un peu,
oui,
hein, déjà,
oui, bien
cette
sûr.
Question-là. J'ai choisi d'être entraîneur, c'est parce que j'avais surtout envie de retransmettre ce que mes profs, ce que mes maîtres m'ont appris. Et maintenant, je finirai ma carrière de vie.
En tant qu'entraîneur et professeur.
Voilà, oui, ouais, je crois c'est... que... Bon, c'est ma vie.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment votre fierté, c'est d'avoir autrement transmis ce qu'on vous a déjà transmis, quoi. Il y a, Il y a l'idée de passer un flambeau quand même, hein. L'idée de passer quelque
chose.
Ah
oui, ah ben ça, mais pour trouver un flambeau, oui, effectivement, j'y pense, mais on ne peut pas non plus avoir mis 40 ans d'enseignement et puis tout retombe. La perle est très rare, malgré que j'ai formé des professeurs, j'ai formé des élèves qui sont devenus des professeurs de judo, malgré que... mais voilà, la conjoncture actuelle sur le plan local ne permet pas... ils ont été travaillés ailleurs.
Oui, donc, c'est ça.
Voilà, le drame, c'est ça. Voilà, c'est tout.
Alors, Chiara, on t'écoute.
Comment et à partir de quand peut-on devenir professionnel au judo?
Ce sont des cadres techniques.
D'accord. Qui appartiennent à la fédération.
Voilà, ils sont employés fédéral, ils sont employés par un comité départemental, ils sont employés par des comités régionaux, ils sont des cadres techniques qui ont en mission, qui ont certaines missions justement sur le développement et puis de développer le judo dans les départements, les régions ou au niveau national. Mais professionnellement, comme pour ouvrir un magasin,
non,
ça c'est pas, il y en a très peu, quoi.
Alors, moi j'ai quand même une question qui me, depuis longtemps, qui m'interpelle, c'est pourquoi est-ce que le judo marche aussi bien en France? Pourquoi est-ce qu'on rivalise avec les Japonais qui sont les créateurs du judo? Pourquoi est-ce que ça prend si bien en France alors que ça ne prend pas forcément aussi bien sur nos pays voisins en Europe? Pourquoi la France est aussi bonne finalement?
Je pense qu'on a une conception, une mentalité qui est en osmose avec les Japonais.
Ah,
je crois que... Alors, nous, les Français, enfin, ce que
oui,
je ressens... Hein,
bien sûr, oui.
Nous, les Français, on est des tatillons. On veut toujours comprendre, mais pourquoi on pose un tas de questions.
On veut les explications.
Voilà.
Là.
Tandis que les Japonais, eux, c'est d'abord vous travaillez et après on comprend.
D'accord.
Voilà. Et à l'heure actuelle, il faut dire que nous, en France, on a tellement développé le judo, on a tellement hiérarchisé la pédagogie qu'on en est devenu vraiment des maîtres.
On est une référence.
Et une référence. Et les Japonais, nous disent, vous êtes bons là-dedans.
Ah,
que eux, ils sont moins bons au niveau enseignement pédagogique auprès des enfants. Voilà.
Alors,
c'est important.
C'est ça qui est étonnant. Et pourquoi? Alors, c'est sûrement lié beaucoup, effectivement, à la fédération, à tous ces cadres techniques qui ont dû le développer.
Oui. Ouais,
Et ça a marché en France.
Et ça a marché.
Dans les années quoi? 70, 80, ça a commencé?
Le grand boom.
Ça s'est vraiment développé.
Le grand boom dans les années 80.
Ouais.
D'accord. On va dire ça comme ça.
Très bien. Alors, Vanali, la dernière question concernant le judo. Oui.
Pourquoi aimez-vous cet art martial?
C'est une question très générale, mais en quelques mots, pourquoi est-ce que ça vous a... Pourquoi est-ce que le judo, en dehors d'une rencontre d'une personne, pourquoi est-ce que le judo, ça vous a parlé? Ça a réveillé quelque chose en vous?
Parce que j'ai pratiqué tout de suite.
Ouais.
Je pense que j'aurais pratiqué le karaté, j'en parlerais peut-être avec la même passion.
Ouais,
voilà. Le judo m'a convenu. Dans ma personnalité.
Un moment T de votre
vie. Un moment clé de ma vie.
Ouais.
Ça m'a convenu. J'en ai retiré du bien. Donc j'ai dit pourquoi pas. Mais j'aurais continué le rugby. Je pense que ce que j'ai fait en judo, l'aurais fait en rugby.
Oui.
Voilà, c'est ça. J'ai pas une préférence.
Après, vous disiez quand même qu'avec la rencontre de Jimmy Hagar, ça a été déterminant. Au-delà du sport et du judo, voilà.
Il
y a des rencontres importantes, quoi.
Oui, hein? et puis, je n'ai pas aussi à dire ça c'est plus valable, ça c'est moins valable.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Je dis simplement que. Dans les arts martiaux, il y a plusieurs façons de les pratiquer. Nous, le judo, c'est le contact, c'est la voie de la souplesse. L'aïkido, c'est la voie...
Avec les clés de bras, avec
les enchaînements. C'est aérien.
C'est ça,
Et puis le karaté, c'est le combat à main nue, pied-point. Mais tout est lié. D'ailleurs, mon diplôme mon diplôme de professeur de judo est celui-ci. Je suis professeur de judo, d'aïkido et de karaté.
Donc vous êtes
parce
en mesure...
que nous, à l'époque, c'était la même fédération.
Ah, donc vous êtes en mesure d'enseigner voilà. tous ces arts
oui,
martiaux.
Mais mon option, c'est le judo quand même.
Ouais, je comprends très bien.
Je ne veux pas faire de l'ombre au karaté et à l'aïkido.
Bon, faut pas en faire à Vierzon, ouais, vous entendez tous très pas. Bien. Allez, on fait une pause parce que ça s'agite
mais
dans tous les...
Pas fini.
Oh, excuse-moi, petite Vanelli, vas-y.
Quelle différence y a-t-il avec d'autres arts martiaux?
Bien, je viens de vous le dire.
Voilà.
C'est-à-dire que le judo... D'abord, le judo, c'est un sport olympique. Que le karaté devient un sport olympique. Là, il va être revenu là, bientôt, là,
ouais.
Au prochain jeu, d'ailleurs.
Ouais, ouais, ouais.
Mais par contre, l'aïkido, il n'y a pas de compétition.
Ouais.
Donc, c'est ce qui fait un peu la différence et c'est ce qui fait stagner un petit peu, avancer cette pratique. Mais bon.
Les compétitions font connaître le sport auprès des enfants et
tout
c'est ça
fait.
Qui les tire.
Parce que c'est médiatique
bah,
ou pas.
Voilà, bien
ou,
sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Mais j'ai une question
alors,
dans ma tête.
Alors, vas-y, une question dans ta tête. Sors-la de ta tête.
Est-ce que vous savez compter jusqu'à 100 en japonais?
Non, je ne sais pas compter jusqu'à 100 en japonais.
Bon, ça, ce sera pour la suite, pour les questions sur le Japon. On fait vite une petite pause avec Olivia Ruiz, qui va nous faire des crêpes aux champignons. Et on revient sur le Japon avec Damien, qui nous présente le pays.
Fenêtre que je dois la boucler. Ils disent que je suis folle, que c'est moi qui l'ai tué, que mes idées s'envolent, que j'ai tout oublié. Moi je sais que c'est faux, pour qu'ils reviennent, je chante haut.
Allez, on revient, tout le monde s'installe, on repasse maintenant, on revient pour notre émission sur Radio Tintouin avec Michel Dubourg qui nous a présenté là, dans cette première partie d'émission sa passion pour le judo. Et on passe, alors forcément le judo, on l'a dit, hein, ça a été créé par un monsieur japonais, donc on va donc parler un petit peu du Japon que vous avez visité en plus, le Japon. Vous le connaissez ce pays?
Oui, j'ai eu la chance
de vous y rendre.
De m'y rendre, oui.
Alors, on va écouter Damien qui va nous présenter un petit peu le Japon. Quelques mots. Vas-y, Damien.
Alors, le Japon. Le drapeau impérial du Japon a été interdit par l'armée américaine qui a occupé le Japon après 1945. Le Japon est une archipel composé de trois îles principales. Île Hokkaido, île Hyoshu et île Kyushu. C'est le dixième pays le plus peuplé du monde.
Oui.
127 millions d'habitants. Tokyo est la plus grande ville du monde. 35 millions d'habitants. Le Japon est la troisième puissance. C'est un pays riche et prospère. Les Japonais ont la plus longue espérance de vie du monde. Alors, c'est un pays très urbanisé, mais toutes les villes sont sur les côtés, car l'intérieur du Japon est composé de montagnes, dont la célèbre Fujiyama. Le Japon est une monarchie. Le chef d'État est l'empereur Akihito, vieux de 74 ans.
Bien, Damien, tu nous as dit beaucoup de choses sur le Japon. Voilà, ce grand pays par sa population et troisième puissance économique, c'est quand même un pays finalement qui surprendra toujours. Moi, j'ai cette image des Japonais qui ont souffert de ce tremblement de terre et de tsunami et qu'on a vu des Japonais capables de donner du temps à leur patron pour qu'ils reconstruisent les usines, capables de donner de leur énergie, voire de leur salaire. C'est quand même un état d'esprit très particulier, les Japonais. Ils ont cette force quand même pour se relever.
Oui, c'est dans leur culture.
Ouais.
On va dire ça comme ça. C'est ce qui nous différencie des Européens ou Japonais. C'est dans leur culture. C'est des gens, très humbles. Ils ne peuvent pas se... Ils ont un grand respect pour le passé. Mmh. Voilà,
pour la tradition, pour les ancêtres, pour tout ce qui est transmis. C'est pour ça ma question, monsieur, de tout à l'heure, c'est pourquoi le judo marche si bien en France alors qu'on n'a pas du tout cette tradition. Mais en même temps, voilà, on a su développer
En Europe, on a quand même une grande histoire.
Oui. Et on est surtout aussi beaucoup tourné vers le sport. Et le sport, c'est important, quoi.
Le sport, la culture.
Ouais, ouais.
Vous savez, moi, je vais être. Quand j'ai été au Japon, j'ai remarqué une chose, c'est que dès l'instant où je suis français, quand j'ai dit que j'étais français,
oui.
Simplement je ne parle pas le japonais, pas mm-hmm. du tout. Hein. On avait des interprètes, ainsi de
oui,
suite.
Oui.
Mais dès l'instant qu'on était français, on était reconnus comme des gens accueillants. Ils sont friands de notre culture.
On les voit beaucoup.
Ils sont
à Paris notamment, dans
les
châteaux.
Oui, à Paris, ils adorent nos châteaux.
Oui, c'est ça. Ouais.
D'ailleurs, j'ai une très grande histoire à vous raconter. Il m'arrive une aventure phénoménale au Japon.
Bon, alors on va commencer. Alors, pour aller un petit peu plus vite, ce que je vais vous demander, les enfants, c'est de poser toutes vos questions d'un coup, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des fois des redites. Et puis après, on laissera répondre Michel. Alors, vas-y.
Combien de fois et à quelle occasion êtes-vous parti au Japon? Qu'avez-vous préféré dans votre séjour? Combien de temps met-on pour se rendre au Japon?
Alors, toutes ces questions.
Alors,
occasion déjà?
Alors, j'ai été au Japon en 1995, lors des championnats du monde de judo.
Voilà. Très bien. Envoyé par la fédération.
Alors, j'ai fait partie du vol avec l'équipe de France et donc on est parti d'Orly, bien sûr, mm-hmm. et on est passé par la Russie et tout ça. Et donc, ça met 12 heures pour aller au Japon.
D'accord.
Et donc, à minuit, j'avais pas enlevé l'horaire français.
Ouais.
Et à minuit, j'ai vu le soleil. Voilà.
Oui.
Parce que, si vous voulez, on allait comme ça et la Terre tournait comme ça.
D'accord.
Donc, j'ai atterri à Shiba. C'est l'aéroport qui est à côté de Tokyo.
Ouais, ouais.
Et Et effectivement, donc là, déjà, première impression fabuleuse, j'ai cru qu'on atterrissait dans la mer.
Ah oui.
La piste est quasiment...
au bord de l'eau.
Tout à fait au bord de l'eau. Voilà. Donc là, j'ai été surpris, mais bon, je dis, ça commence bien. Bon, voilà.
Alors, là, qu'est-ce que vous avez préféré? Alors, ça va être un petit peu difficile de répondre, parce qu'il y a sûrement beaucoup de choses, mais qu'est-ce que vous avez préféré dans votre séjour?
Comme c'était la première fois que j'arrivais là-bas,
oui.
je peux vous dire que j'ai été impressionné par tout. Par tout ce qui était, les gens, la population, beaucoup de monde.
Ah oui.
Mais alors, ce que j'ai été surpris, c'est leur discipline. C'est des gens très propres.
Ah oui.
Alors, faut savoir qu'au Japon, il n'y a pas de sécurité sociale. Donc, il n'y a pas de retraite. Tous les personnes âgées, tout ça, sont pris en charge par la famille. Et ils travaillent jusqu'au dernier moment de leur vie, quoi. Donc, j'ai trouvé beaucoup d'anciens cireurs de chaussures. Beaucoup de gens qui ramassaient, ils balayaient les trottoirs, les mégots, les ci, les là. Et ça fourmille, il y a toujours du monde. Et aussi, ce qui m'a impressionné, c'est les jardins. Alors, lorsque vous allez, mettons, vous allez à Tokyo, vous l'avez dit tout à l'heure, 35 millions d'habitants, c'est fabuleux. Alors là, ça grouille, bon, c'est une fourmilière.
Ouais, oui.
Et tout d'un coup, vous allez dans un jardin japonais, vous avez un silence. C'est ça qui m'a frappé. Et ça, je peux vous dire que...
Au milieu d'une ville
la
plus peuplée du monde, quoi.
Et
donc aussi l'entretien de ces jardins, peut-être.
Ah oui,
propreté, quoi.
Tout le monde est en train de tailler, en train... Vous marchez sur les graviers, il y en a un qui passe derrière, refaire les formes. Les
fameux jardins japonais,
ouais,
quoi.
Ouais, c'est fabuleux. Franchement, c'est fabuleux.
Alors, Lola, question suivante. Vas-y, tu nous as deux questions à poser.
Quel est le sport le plus pratiqué dans ce pays?
Bien, les sports pratiqués dans ce pays, ben c'est pas le judo. Hein.
Ah tiens.
Pas du tout, non. Ils ont opté un peu pour le baseball. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a des grands championnats de baseball, ils sont friands de ça. Il y a des grands stades. Et bon, c'est pareil, c'est fabuleux.
Et se sont impliqués. C'est récent,
le baseball? Non. Depuis la guerre.
C'est ce que j'allais vous dire.
Depuis les Américains ont passé,
ils ont été influencés.
Ils ont eu un engouement pour ce sport.
C'est ça, ouais.
Mais par contre, ils gardent les grandes cultures japonaises, c'est-à-dire les grands championnats de sumotori.
Oui, bien sûr.
Ça, par contre, ils le gardent. C'est encore aussi... l'ancien temps et le nouveau temps. Parce qu'au Japon, être sumotori au Japon, c'est un grand dieu. Hein. Ça veut dire que l'homme est riche, que l'homme. Parce que plus on est gros au Japon, plus on a un pouvoir d'argent, soi-disant. Mais bon, parce que c'est un signe de bonne santé et puis de richesse, de manger, quoi. Ils sont très sportifs.
Donc ils pratiquent beaucoup de sport.
Beaucoup, beaucoup de sport. D'ailleurs, dans chaque discipline qu'on peut trouver moderne, il y a des Japonais.
On voit par exemple des sports pas du tout répandus. Je voyais ça il y a quelques temps, le rugby.
Oui.
Ils ont ils ont une équipe nationale. Ouais. Ils ont même fait quelque chose de très honorable, je crois, au
dernier championnat du monde.
Donc ils sont quand ils s'impliquent dans quelque chose, ils le font complètement.
À fond. C'est dans leur culture aussi, ça.
D'accord. Éléonore.
Quelles sont les spécialités culinaires? Pouvez-vous nous citer quelques monuments importants dans ce pays?
Alors, comment on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Et qu'est-ce qu'on voit?
Alors, au niveau cuisine, hein, il y a beaucoup de marchands de soupe.
Ah oui.
Ouais. Ça, c'est
C'est ce qu'on peut manger dans la rue, comme ça.
Voilà,
comme on mangerait
c'est ce qu'on peut manger dans la rue, le petit bol avec un grand macaroni qui fait 2 mètres. Bien Moi, sûr, c'est les, ça qui m'a impressionné.
Les nouilles.
Et puis voilà, des nouilles, Et puis après, vous avez des sushis, bien sûr, en restauration, des nakis, des brochettes de poulet, de ci, de là, des tempuras, des nems, des rouleaux de printemps et beaucoup de poissons crus. Et beaucoup,
oui.
beaucoup. Et puis, ils font aussi beaucoup de cuissons vapeur et puis... ou des cuissons bon moi j'ai mangé un chahut-bahut c'est comme un genre de pot-au-feu voilà alors on faisait griller notre viande et tout ça dans l'eau et c'était marrant quoi c'était moi bon, c'était très bien par contre c'est assez cher la nourriture est très très chère au Japon très très chère l'hôtellerie est très très chère pourquoi parce que comme vous disiez tout à l'heure ils vivent tout autour de la côte et il y a très peu de place. Donc là, ils sont en train un peu d'exploser les montagnes pour faire des routes, pour agrandir un peu leur espace vital.
Ouais, le pays est trop petit pour tout le monde.
Tout à fait.
Hein, il faut loger tous ces 120 et quelques millions d'habitants. Plus les touristes, parce que ça doit être sûrement très fréquenté.
Très
hein.
fréquenté.
C'est un pays qui donne envie... de s'y rendre. Alors, on passe à la question suivante, c'est-à-dire, c'est Léa qui nous la pose. 3 questions par Léa. Vas-y Léa.
Comment pouvez-vous définir les Japonais ?
Alors, c'est une question très générale.
À comment je les définis ?
Comment on pourrait définir ce peuple ?
Eh bien, je les définis comme des gens très respectueux. Ils sont prêts à rendre service lorsqu'ils sont avec des touristes, très conviviales, ils sont très sensibles. Moi, je les ai trouvés très sensibles. Alors, aussi, bon, chez nous, lorsqu'on rencontre les gens, on se dit bonjour, on serre une poignée de main, on s'embrasse, suivant l'affectivité qu'on a. Chez eux,
il y a une distance.
Il y a une distance tout de suite. Pas, c'est pas une distance de méfiance, je pense que c'est plutôt une distance de respect, de contact, et puis aussi...
Une forme de pudeur peut-être.
Oui, et puis, comment dirais-je, maladif.
On les voit d'ailleurs sur les photos,
ils ont des masques
quand ils sont malades. Mais c'est ça aussi, c'est un lien de respect, parce que je suis malade, je ne transmets pas mes microbes.
Exactement. Hein et puis, ils ne se serrent pas la main, ils ne s'embrassent pas... Voilà, mais par contre, il salue. Et il salue, au judo, on salue.
Oui, bien sûr.
Donc, ça veut dire bonjour en japonais. Ça veut dire une marque de respect, de salut. Et puis, moi, je les ai trouvés très, très accueillants. J'ai fait une histoire comme ça.
La fameuse anecdote.
Oui. J'ai rencontré un japonais et qui me dit qui parlait français mieux que moi.
D'accord.
Il me dit voilà, vous êtes français. J'ai dit oui, bien sûr. Il me dit voilà, j'ai l'intention d'aller en France dans 2-3 ans. Et est-ce que vous pouvez m'accueillir ? Je lui dis écoutez, si c'est possible, je savais pas. Il dit écoutez, voilà, je voudrais visiter les châteaux de la Loire. Je dis écoutez, vous pouvez pas mieux tomber. Moi, j'habite très
loin.
Près des châteaux de la Loire.
Bien sûr.
Et donc, alors je lui dis mais quel château de la Loire vous voulez visiter ? Chenonceau. Voilà. Alors, je me suis renseigné, bien sûr. Et il voulait visiter Chenonceau. Pourquoi ? Je vais vous le dire. C'est le seul château de Loire qui est tout en japonais.
Ah, d'accord.
Donc, on a exaucé cette...
2 ans après, il est venu en
France. Ah oui, il est venu en France. Je l'ai accueilli chez moi et je l'ai emmené visiter Chenonceau. Et j'ai voulu aussi lui faire visiter Cheverny, Chambord.
Oui,
non,
c'était
Chenonceau. Voilà.
D'accord.
Et je le connais. Bon, je suis resté toujours ami avec lui.
Oui, bien sûr, vous avez gardé des liens.
Mais je crois qu'il est décédé maintenant. Ouais. C'était fabuleux. On a dit il y a 35 millions d'habitants à Tokyo. Et lui, on tombe comme ça, par hasard. Voilà. Une autre anecdote, j'ai pris le métro à Tokyo,
Oui.
Et à Tokyo, les métros, il y en a un ici, un au-dessus.
Ah oui, c'est en étage.
Oui, c'est. Alors, comme je ne savais pas lire, comme je ne savais pas lire le japonais, bien sûr, et donc j'ai mis 2 heures à prendre mon billet, et je ne savais pas où on le prenait. Alors, ils étaient en avance au niveau moderne, il fallait mettre de l'argent dans et puis faire mon itinéraire. Et donc, mais je ne savais pas quel quai.
Oui, c'est ça, oui.
Eh bien, j'ai rencontré une dame, une japonaise, je lui ai simplement montré mon ticket. Elle m'a emmené à la place. Elle a attendu que je monte dans le métro et elle m'a fait signe bonsoir. Donc depuis ce jour-là, je me suis juré que dès que je verrai un Japonais à Paris, je l'accompagnerai jusqu'à son
ils ont un sens de l'accueil finalement.
Voilà.
Malgré cette pudeur, cette distance, ils ont un sens énorme de.
Un contact. Il faut y aller, quoi.
Il faut aller pour voir. Alors.
Pouvez-vous nous dire quelques mots en japonais?
Oh, mon répertoire vocabulaire en japonais, j'en connais énormément. Puisque le judo, on ne parle que japonais.
Ouais.
Toutes les noms, les techniques sont en japonais.
Ouais.
Alors donc, effectivement. Mais ils ont un accent. Parce qu'il faut savoir que les Japonais, ils ont un langage masculin et un langage féminin.
D'accord.
Voilà, on ne s'adresse pas de la même façon.
Entre un homme et une femme.
Un homme et une femme.
D'accord.
Maintenant, moi, je peux vous dire, quelques mots en japonais. Alors, konnichiwa, ça veut dire bonjour ou bon après-midi. Hein,
ouais.
Voilà. Sayonara, ça veut dire bonsoir. Kyo, ça veut dire aujourd'hui. Kino, ça veut dire hier. Et je voulais vous dire tout de suite à vous tous, arigato, ça veut dire merci.
Merci.
Voilà.
Ah, on va bientôt.
Donc ça, c'est important de savoir sur moi ces 3-4 mots-là pour être respecté, quoi.
Tout à fait. Alors, c'est la dernière question avant notre petite pause musicale. On conclura et on pourra se quitter et se dire arigato. Sefa, approche-toi du micro, tu es un petit peu loin peut-être.
Quelles sont les traditions les plus répandues dans ce pays?
Les traditions. Alors.
C'est vaste encore une fois, je sais.
Alors,
qu'est-ce qu'il peut y avoir comme.
Ils adorent, j'ai eu la chance d'aller voir du théâtre, un théâtre japonais, c'est fabuleux. On ne peut pas aller au Japon sans aller voir un théâtre avec les masques. Tout ce qui est
les décors et les costumes.
Les décors, les kimonos,
ouais.
Ça c'est fabuleux. Moi
j'ai
apprécié.
À Tokyo, hein.
À Tokyo.
Ouais.
Après, ils ont les sumo, bien sûr. C'est des dieux au Japon, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est pareil, c'est des gens.
C'est ancestral, ce pute.
Ah oui, c'est
très longtemps. Ils sont vénérés et ils grandissent. Ils sont choisis très jeunes, sumo.
C'est très très jeune.
Par rapport à des critères physiques?
Non, pas spécialement.
Après, on va les rendre opulents, gros. Mais...
Non, on les gave, c'est comme nos oies.
Oui. Pour qu'ils deviennent sumo.
Mais par contre, ils gardent une certaine souplesse.
Ah oui, on le voit bien.
Mais bon, malheureusement, ils ne vivent pas très très vieux. Hein.
C'est bon.
Ils sont plus ou moins un peu condamnés.
Bien sûr.
Mais ils ne travaillent pas, c'est des dieux, ils ont beaucoup d'argent. Enfin bon, voilà.
D'accord.
Après, bon, il y a les geishas, c'est les fameuses geishas, c'est des hôtesses dans les hôtels ou dans des bars. C'est des dames de compagnie, les geishas.
Ouais, ouais.
Voilà.
Donc de nombreuses traditions et un pays
alors,
justement
ils tourné ont vers le l'art de hanami, c'est d'apprécier la beauté des fleurs.
Ah oui.
Voilà. Ils ont le keribana, c'est l'art floral. Donc ça, j'ai assisté aussi au marché. Ils savent vous faire un décor floral en 3 secondes. Hein. Et ça, franchement, ils ont cette dextérité gestuelle.
Et du goût.
Oui. Et puis, le origami, c'est l'art du pliage.
Ah oui, on connaît.
Et ça, ils sont fabuleux là-dessus. Franchement, ouais. C'est admiratif, quoi.
Oui, bien sûr.
Ça, voilà.
Ils sont très forts, ces Japonais. Bon, écoutez, on va...
Et leur religion, ah, pardon, Michel. leur religion c'est le Shinto et le bouddhisme. Bien. Voilà. Donc, j'ai aussi... j'ai fait un petit périple dans certains temples, comme nous en France. Et à chaque temple que je faisais, donc c'est un peu de business aussi financier, hein, on est bien d'accord. Et ils me posaient un cachet relatant du temple que j'ai été visiter. Et franchement, bon, c'était fabuleux, quoi. Je veux dire, vous verriez les cachets que j'ai rapportés. C'est...
Ouais.
Moi qui étais collectionneur.
Ah oui, c'est ce que j'allais vous dire. Vous avez dû être admiratif.
Voilà.
Vous avez fait un seul séjour au Japon. Vous y êtes allé
un seul séjour, ouais. Mais j'envisage de retourner au Japon pour les prochains Jeux Olympiques.
Ah oui.
Donc c'est dans peu de temps.
Bien sûr.
Et à Tokyo, j'ai été visiter aussi le palais impérial.
Ah oui.
Et ça, c'est fabuleux à faire, hein. Bon, la gare de Tokyo, je vous en ai parlé, c'est aussi fabuleux, c'est pas la gare de Vierzon, malheureusement. Le mont Fuji, c'est vrai que c'est aussi pour eux veut dire un truc ancestral. Le mont Fuji, c'est. Bon, après, j'ai été à Kyoto, j'ai été visiter les jardins à Kyoto, c'est pareil, c'est fabuleux. J'ai été visiter le temple de Tenri. Et à Kyoto, j'ai été visiter le Sanseigyu. C'est aussi un temple. Bon, c'est les principaux, je dirais, monuments. Mais moi, j'étais cadré, hein. Bon, bien sûr, j'ai été prendre une photo au Kodokan.
C'est ce que j'allais vous dire.
Bien sûr, ça, on ne peut pas, en tant que judoka,
le lieu,
parler du Kodokan. Ça,
la source.
Ouais, la source. Donc, voilà.
Très bien, Michel.
Voilà, ben, je vous remercie.
Merci pour toutes ces réponses. On fait une petite pause musicale avec Black M et on revient pour se dire arigato.
Yeah. Hello. You. Ce son est une dédicace à Madame Pavrochko. Vous vous souvenez? Monsieur Diallo.
Aïe, Madame Pavrochko, non. Je suis pas en prison à l'hosto, non je fais des hits Madame Pavrochko. Et vos gosses me kiffent Madame Pavrochko. Oui, 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 oui Madame Pavrochko. J'ai toujours autant d'inspi Madame Pavrochko. C'est pour mes gars sous weed Madame Pavrochko. Si vous voulez on se tweet Madame Pavrochko.
Et ça fait
solo, t'es solo. Je me suis dit c'est le moment mais fire.
Le petit Renoir qui grattait des couplets de barge. Fuck le délégué, dites-moi où est le mic. On dirait comme un pouka, wesh, d'où M-Snipe. Ma vie, les cours, oui, 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 je m'en bats. Les c***, oui, je sais, c'est dommage. Du coup, vos surveillants sont contre moi, moi, moi.
Ah, allez, Madame Pavrochko, non, je suis pas en prison à l'hosto. Non, je fais des hits, Madame Pavrochko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavrochko. Oui, 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 Madame Pavrochko. J'ai toujours autant d'inspi, Madame Pavrochko. C'est pour mes gars sous weed, Madame Pavrochko. Si vous voulez, on se tweet, Madame Pavrochko. Solo, t'es solo, je me suis dit, c'est le moment, mais le fire.
Fait d'aller-retour au rectorat. Beau discours dans ma tête, j'en ai fait une vraie chorale. Toi, tes épaules dans ton bureau, tu me dis va bricoler. Et moi, au lieu de te gifler, je préfère en rigoler. Dès que nos regards se croisent, hop, adrénaline. Oui, je sais, j'ai pas calculé le prof de mathématiques. J'ai analysé un de ces fameux couplets, Ouna Kikike. Oui, je sais, madame, le rap a failli gâter ma vie.
Oh. Allez, Madame Pavrochko, non, je suis pas en prison à l'hosto. Non, je fais des hits, Madame Pavrochko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavrochko. Oui, 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 oui. Madame Pavrochko, j'ai toujours autant d'inspi, Madame Pavrochko, c'est pour mes gars sous weed, Madame Pavrochko, si vous voulez, on se tweet, Madame Pavrochko.
Je me suis juré qu'un jour.
studio, vous danserez sur mes sons. À une époque, je voulais me procurer un Smith & Wesson. Une petite voix me chuchotait, vas-y, tire sur les codes. Ça fera une petite anecdote, la directrice elle est conne. Pourquoi ce compte surveillant me demande de vider mes poches? On est pas au poste de police, et moi je suis fidèle au poste. Mettez-moi vos heures de colle, même allez prévenir vos collègues. Vous avez qu'à être en colère, c'est nous les restats du collège.
Oui, aujourd'hui ils diront que je ne rappe que pour les types, que pour le fric, quel drôle de type. J'irai même Ticon, qui s'imagine avoir la force de King Kong. Aujourd'hui ils diront que je ne rappe que pour les types, que pour le fric, quel drôle de type. Je dirais même petit con qui s'imagine avoir la force de King Kong. Enfin bref, allez madame Babochko, non, je suis pas en prison à l'hosto. Non, je fais des hits madame Babochko, et vos gosses me kiffent madame Babochko. Oui, 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 oui madame Babochko, j'ai toujours autant d'inspi madame Babochko. C'est pour mes gars sous weed madame Babochko. Si vous voulez on se tweet madame Babochko. Solo, t'es solo, je me suis dit c'est le moment, mais le fire.
Eh oui, on revient pour conclure. On n'est pas avec Madame Babochko, mais avec Monsieur Michel Dubourg pour terminer cette émission qui s'est passée avec plein d'anecdotes. C'est ça qui était formidable, Michel. Plein de connaissances. Et quand on vous connaît, c'est toujours très riche de vous écouter parce qu'il y a beaucoup d'histoires et d'expériences. Et on sent qu'il y a vraiment l'idée d'une transmission. C'est ça que j'aime beaucoup chez vous, c'est qu'on peut apprendre beaucoup de choses dans une forme de sagesse que vous avez derrière vous. Voilà. Et ça, je trouve que c'est formidable. Je voulais vous remercier vraiment pour avoir ouvert tout ça aux enfants, aux auditeurs. On sait qu'on va se revoir parce que vous faites du judo, mais c'est toujours bien de se poser, de regarder un petit peu ce que vous avez fait pendant toute votre vie, tout ce passage, l'idée du judo et du Japon. Et je trouve que c'est très bien que ça se fasse en plus avec des enfants. Quand on sait que vous avez, votre vie a beaucoup tourné avec les enfants, et c'est dans cette idée de transmission. Merci encore.
Merci à vous, c'est moi qui vous remercie. Et je voulais vous dire aussi, j'ai pris ma licence, comme je vous disais, à 17 ans.
Oui.
Et je suis toujours aussi passionné dans cette discipline. Et j'ai encore beaucoup, beaucoup d'années. J'espère encore avoir beaucoup, beaucoup d'années à encore transmettre mon savoir. Et à ceux qui veulent bien sûr, l'écouter et qui veulent bien, venir, voilà.
Merci. Au judo club de Vierzon.
Oui, au judo club de Vierzon ou au judo club de Neuvy, parce que j'ai deux clubs, hein, en définitif. D'accord. Mais avant tout, c'est vrai, au judo club de Vierzon. Et je suis un grand plaisir ça me fait très grand plaisir de vous avoir avec moi, et puis que vous veniez dispenser de mes cours, et je suis très fier de faire tout ça pour l'école Notre-Dame.
Merci Michel. Richard. Merci pour tout. Au revoir à tous.
Au revoir.
On se quitte.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.
On se quitte maintenant sur notre générique de début.
Arigato.
Qui n'est pas bretonne. Qui est bretonne, pardon, et pas japonaise. Voilà.
Arigato.
Et à une prochaine.
Arigato.
Bien sûr, sur Radio Tadoua. Au revoir.
À bientôt.
À tous.
Arigato.
Arigato.
On m'entend. Toi, maître.
Oh, oh, oh.
Vous étiez sur l'antenne de Radio Tintin, la technique Marie Zvessier et Denis Bouchonnet. Alors un grand merci à Monsieur Vatan et à Michel Dubourg. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Avec le bagage de Longbiway.
Merci à vous, Radio Tintin. Au revoir.
Alors on peut écouter ça.
Alors.